Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court, tous les soirs, une conversation qui dure une heure, avec les artistes ce soir, Liliane Giraudon.
Un tango, une danse, un baiser.
Ça y est,
puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parlez-temps qui court.
Marie Richeux avec Liliane Giraudon.
Parce que oui, on peut le dire, souvent la chose se fait sans nous, dans notre dos ou sous nos pieds, et si elle ne s'accomplit pas, le poème demeure un simple petit ossement décoratif, déposé là et sans usage. Oui, le poète est mort quand le poème est fini, mais combien de poèmes morts écrits par des poètes officiellement vivants? Ce sont vos mots, Liliane Giraudon, ou plutôt des mots passés et organisés par vous. Je ne sais pas combien de poèmes morts écrits par des poètes prétendument vivants, mais je sais que votre livre « Le travail de la viande » est agité d'un grand poème vivant, comme on le dirait d'un grand vent, pourquoi pas le Mistral. Même explosé, même éclaté sur la page comme une poignée de Mikado atterrit au sol, il bouge encore. Il y a des mains coupées pour porter ce poème, lui-même jamais à l'abri d'être débité en morceaux. Bonsoir Liliane Giraudon.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue. Le travail de la viande est publié chez POL comme nombreux de vos autres textes et on commence par aller chez le boucher.
C'est très agréable. Très doux la viande. Il y a des parties plus douces que d'autres. Une viande tendre est très très douce. C'est très doux ça. Chaque morceau a son charme. Hein.
Anormal.
Oui, au début on est comme ça. On prend avec des pincettes la viande, on la soulève. Si on pointe le couteau, on tient pas bien le couteau. Alors, tu l'as tapé. Elle bougera plus maintenant. Vas-y, prends-la à bras le corps. Il y a un moment, on la prend à bras le corps. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Au début, on a peur. Et à un moment donné, il y a un déclic qui se fait. On n'a plus peur de rien. On la prend, on est content. Il y a une certaine jouissance même à la toucher, à bien la tenir. Il faut faire corps avec elle. C'est charnel quand on est sur la bête. Quoi. C'est vrai que c'est très physique. Quoi. On est tout le temps... On la touche beaucoup, on met tout bêtement le doigt dedans. Si on rentre tout seul, c'est qu'elle est tendre. On va me prendre pour un détraqué, là.
La viande sur la table, la viande par terre. La viande sur les étals, la viande sous la pluie, la viande étalée, couverte de mouches, mangée d'asticots. La viande fraîche, comme une rose, la viande des hommes, des femmes, la viande des grisons, la viande malade de la mort. La viande saoule, la viande bleue, la viande rouge, s'il vous plaît. Dans les restaurants américains, allemands, français, anglais, évaporés dans les restaurants thaïlandais. Égyptien, Mauritanien, Sénégalais. La viande qui pue et qui fait mal, faisandé, épicé, racial. La viande qui saigne et qui pleure, la viande qui rit sous les hommages des archiducs et des imams, des moines dodus, des friandes femmes du monde, des hommes des cavernes illuminées, la viande.
C'est vraiment une chanson incroyable de oui. Brigitte Fontaine. Pour ouvrir cette émission avec vous, Liliane Giraudon, et juste avant cela, une archive d'il y a un petit peu plus de 20 ans pour France Culture, Le cri de la viande, on allait chez Yves-Marie Le Bourdonnec mettre les doigts dans la bête. On pourrait imaginer que ce titre-là, Le travail de la viande, fonctionne comme un petit moteur, comme une petite chose qui met en route un livre, un texte ou un poème. Il arrive comment ?
Il est arrivé après. J'avais d'abord un premier titre qui me satisfaisait pas. C'était, je crois que c'était La disparition des oiseaux. Et je trouvais ça trop poétique. Et j'ai cherché. Et puis à un moment donné, je suis descendue, j'ai un boucher tout près de chez moi, je suis descendue acheter de la viande, et là je suis tombée sur un dépliant qui s'appelait Le travail de la viande, et qui était un dépliant qui s'adressait aux garçons bouchers, sur les débouchés des garçons bouchers. Et ça a été presque une illumination, je me suis dit, mais moi qui passe mon temps à dire que nos livres sont des carcasses, voilà le titre, tout trouvé, et souvent d'ailleurs... c'était la première fois quand même que j'étais que j'ai fait un livre sans titre, avec un titre qui me convenait pas. Je l'ai trouvé même après avoir donné le manuscrit, parce que j'ai corrigé sur manuscrit.
Oui, donc c'est précisément à l'inverse de ce que je disais, c'est-à-dire c'est pas vraiment le titre qui met en route le livre, mais il vient le transformer alors une fois que vous corrigez le titre.
Non, au contraire, il vient éclairer et dynamiser et complexifier aussi, donner des pistes, et il était en rapport aussi avec ce travail de la langue, de la mémoire, qui est en jeu dans le travail poétique, qui est aussi le travail de la prose d'ailleurs.
Ce qui est troublant évidemment, c'est que ce livre-là, qui peut s'attraper comme on veut, parce qu'il a plusieurs moments, on va dire, mais si on décide de commencer par son début officiel, c'est pas le corps d'une bête qui est découpé, mais celui d'une femme, et d'un seul coup, le travail de la viande se teinte assez rapidement, Liliane Giraudon. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce conte que vous réinvestissez ?
Ça m'est très difficile d'en parler parce que c'est un conte que j'ai lu ou qu'on m'a lu enfant, que j'ai essayé de retrouver, que je n'ai pas retrouvé, et je ne sais pas comment finit ce conte parce que je l'ai mémorisé jusqu'au moment où la fille se fait attacher les bras dans le dos pour partir. Après, je crois
les bras moignons.
Les bras moignons, ou les bras aux mains coupées. Et j'ai retrouvé le début de ce conte que j'avais noté, que j'avais recopié dans un cahier il y a plus qu'au siècle dernier. Et j'avais une commande pour une performance avec un artiste et qui me demandait de faire un texte que j'enregistrais et qui participait à la performance. Et j'ai retrouvé ce cahier en fouillant dans mes malles de cahier, je savais pas quoi faire, et j'ai fait ce texte. Ensuite, ce texte, je l'ai gardé, il a jamais été publié, et je suis retombée dessus, sur cette espèce de morceau, finalement. Et petit à petit, après le meilleur rôle qui était travaillé isolément, je voulais faire une sorte de mélange adultère, au sens où... Valérie parlait de mélange adultère en littérature. Je voulais pas faire un livre de poèmes, parce que j'ai un rapport à la poésie un peu compliqué. Je trouve qu'il y a une idée un peu trop esthétisante du poème dans la tradition de la poésie française. Et j'ai toujours eu envie de... Comment dire ? De salir cette propreté de cette langue et cette esthétisation de la langue en introduisant des éléments disparates, embrouillant le paysage, justement. Parce que je sais ce qu'on m'a enseigné comme idée de la poésie, mais je ne sais pas. Enfin, je sais quand je vois du poème que c'est du poème. Comme on peut dire de la viande, c'est de la viande. Elle est blanche ou elle est rouge. Mais je ne sais pas exactement ce que c'est qu'on m'impose comme une idée de la poésie par rapport à la littérature. Et je pense qu'il y a quelque chose d'aussi mouvant que du corps sauvage ou que de la viande. Et d'ailleurs, la viande, je crois qu'étymologiquement, on ne faisait pas la différence entre la chair et la viande en français. Et c'est parce qu'on a voulu parler de la concupiscence, qu'on a introduit la notion de chair et qu'on l'a réservée à l'homme ou à la femme. Et ça aussi, c'est un élément par rapport à l'alphabet et à la langue que nous parlons tous, puisqu'après tout, Mallarmé, il servait du même alphabet que le boucher. C'est cette dimension qui m'a intéressée.
D'autant plus que maintenant, en tout cas, dans la manière dont on utilise la viande, eh bien, c'est mort. Quand on dit viande, c'est que c'est mort. Or, il y a quelque chose de profondément vivant, je le disais en introduction, Liliane Giraudon, quand vous dites « quand il y a du poème, je reconnais le poème », et j'ai l'impression qu'un des caractères de reconnaissance, c'est « il y a du vivant ».
Oui, il y a du vivant, et pourtant c'est du vivant qui travaille avec une mémoire, et donc avec la mort. Mmh. Mais sans mémoire, il n'y a pas de vivant, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de... je pense même qu'il n'y a pas d'art. Donc, ce travail de la mémoire de la mort fait que le vivant peut circuler, peut se partager et peut aussi peut-être rendre le monde habitable.
Ce n'est pas anodin non plus que ce livre s'ouvre sur cette forme-là qui est un conte questionné. Il y a plein de questions dans la manière dont vous reprenez ce conte. Lui aussi, il est tranché, hein, puisque la fin ne vous revenait pas, cette fin qui vous a été contée enfant ou adolescente. Quelle sorte de questions vous adressez au conte, ou à nous, ou à qui raconte le conte ?
C'est une question qui est reconduite comme question, mais qui peut nous aider à vivre comme si on avait une réponse... presque immédiate, fugitive. C'est drôle parce que je pense... je sais que souvent... Enfin, j'ai vu des gens tristes qui se précipitaient sur des glaces à la vanille ou au chocolat. Et le temps de l'absorption d'un sorbet ou d'une glace peut vraiment sauver d'un moment de grand désarroi. Et je me dis que... c'est quelque chose d'aussi dérisoire, d'aussi profond que ça, qui se joue. C'est pour ça que enfin, parfois il y a un malentendu dans ce que j'écris, c'est qu'on me dit que je suis plutôt du côté du noir. Et moi, j'aurais envie de dire, je suis du côté d'un rose noir, alors au sens presque baudelairien. Mais il y a quelque chose de l'ordre aussi de la dérision, de la distance. Par exemple, quand j'ai choisi le titre, tout de suite j'ai pensé, ah ben bingo, il n'y a pas un végétarien qui va l'ouvrir. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi une part de provocation actuellement un rapport à l'animal. Pourtant, évidemment que les abattoirs dans la situation où ils sont mis en branle actuellement, je suis contre. Mais je continue, bon, à midi, avec Jean-Paul Lige, nous avons mangé un tartare. Et je crois que je l'ai fait d'ailleurs, peut-être pas si inconsciemment que ça, parce que je savais que j'allais parler de ce livre.
Enfin, quand vous dites qu'on a l'impression que vous écrivez dans un espèce de noirceur, mais c'est quand même passé à côté d'une grande drôlerie de ce que vous écrivez, Liliane Giraudon. Alors là... Parce que même ce conte terrible... où la fille a les mains coupées, où elle demande à se faire... Même là-dedans, même quand vous dites dans quel espace elle peut vivre, cette fille-là, dans quel espace du poème, même ça, ça peut devenir des visions drôles. Et je parle pas de la petite pièce de théâtre qui suit ensuite chez les policiers.
Ben moi, mon rêve, c'était d'être un auteur comique.
Réussi !
Ben, réussi. Merci, c'est la première fois qu'on me le dit.
Ah, mais réussi, moi j'ai ri.
Oui, bon, peut-être pour la pièce, oui. Pour le conte, je ne suis pas sûre que...
Mais on rit parce que c'est très cruel, parce que c'est très dur, parce que c'est aussi beaucoup de la condition des humains et du corps de la femme en particulier.
Oui, oui, c'est vrai. Mais en fait, il y a un rire sauvage et salvateur. Moi, je sais que, par exemple, que j'ai beaucoup lu Sade, et là, je le relis parce que je fais un travail sur Sade, et il me fait énormément rire. Et d'ailleurs, j'ai découvert que dans les 120 journées, dans le château, les seules femmes, enfin les seuls personnages qu'on n'assassine pas, ce sont les cuisinières. Et j'ai lu au moins 5 fois ce livre depuis des années. Et là, j'avais pas vu qu'en fait, celles qui survivent, ce sont les cuisinières. Et ça m'a mis dans un état enfin, j'avais très envie de rire. Et je me suis dit, ben oui, évidemment, quand on voit ce que les listes de bouffe que le marquis se faisait livrer, soit à Vincennes, soit après, et le goût qu'il avait pour la nourriture, je pense qu'il y a tout ça aussi dans le fait d'être vivant aujourd'hui. Vivant dans un monde, effectivement, on pourrait pas dire de moins en moins drôle, parce que le XXe siècle qui est derrière nous est quand même pas mal au niveau, je dirais, de l'horreur. Si maintenant on fait un peu le bilan ou l'histoire de ce siècle passé, alors le problème, est-ce que ce siècle sera aussi cruel que le précédent? Moi, j'en enverrai quand même tout petit morceau, mais... Je pense que l'art est là pour non seulement nous apprendre à voir ce que nous voyons, à tenter de le comprendre, mais aussi à ne pas s'en désespérer et à trouver l'énergie et la force de rester vivant.
Qu'est-ce qui vous attire dans l'idée de produire du rire ou du comique quand vous dites Liliane Girodon? Moi, j'ai toujours rêvé d'être une auteure comique. On entend même là que c'est aussi une petite blague que de dire ça.
C'est pas vraiment une blague, parce que moi je suis très reconnaissante aux gens qui me font rire. Et par exemple, dans les rapports que j'ai eus avec les hommes, les rapports amoureux, les seuls finalement que j'ai sauvés dans l'idée que je me faisais d'eux, c'est parce qu'ils savaient me faire rire. Et d'ailleurs, ceux avec qui je suis restée un peu plus que les autres, c'est toujours ceux qui m'ont fait rire. Parce que je pense que... Alors, c'est pas évidemment... Il y a une façon de rire. Mais il y a une façon aussi de se détourner du chagrin, j'allais dire. D'être dans une étreinte qui n'est pas trop névrotique. De garder peut-être la bonne distance. Et ça aussi, c'est des problèmes, j'allais dire, de rhétorique et d'art poétique. Savoir ne pas craindre d'aller trop fort dans du noir, trop fort dans du rose, trop fort dans du rouge, et puis tout d'un coup rester dans du silence, dans du blanc, et les placer. C'est-à-dire, c'est marrant parce que dans le Sud, on dit se décarcasser pour se fatiguer. Je me suis décarcassé, on disait ça avant. Et si on regarde la blancheur des carcasses et la beauté d'une carcasse, le travail que cette carcasse a réclamé par rapport à sa propreté, à sa beauté, à la beauté des lignes, on peut penser que ça a quelque chose à voir avec ce qu'on fait de nos vies aussi. Ce qu'il en reste, ce qui va en rester pour un écrivain, quelques livres, ou même s'ils sont effacés, parce qu'il faut pas rêver, je veux dire, même les auteurs de la Pléiade peuvent ne plus être lus. Donc le problème de la transmission et de la mémoire, c'est aussi un fantasme pour beaucoup d'écrivains, je pense. Enfin, moi, je vois ça comme ça maintenant.
Mais à vous écouter, ça voudrait dire que le travail consiste beaucoup à retirer de la viande. Puisque si les carcasses, c'est l'image de ce qu'on fait de nos existences ou éventuellement du travail poétique, alors ça consiste... À prendre son couteau et puis à enlever de la viande.
Enlever, mais rester en étant soi-même la viande. C'est-à-dire qu'on est à la fois celui ou celle. Alors là, c'est intéressant que je dise toujours celui. Pour dire celle, alors que j'occupe un corps apparemment féminin, même si moi, mon objectif, c'est, comme disait Virginia Woolf, mettre du masculin dans le féminin et du féminin dans le masculin. En ce sens, la langue n'est pas sexuée, n'empêche que quand elle occupe un corps de femme, elle s'inscrit dans une histoire. Et alors peut-être que je digresse un peu rapidement, mais la poésie française est une des poésies les plus misogynes qui soit par rapport à la russe, à l'italienne, à l'anglaise. C'est évident que les femmes, il n'y a qu'à voir les mouvements surréalistes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles tapaient à la machine les rêves, elles servaient de muse, voilà, le statut de la muse. C'est... Comment on est à la fois... Je dirais la femme est un steak... Mais comment tout d'un coup elle peut décider de travailler sur des carcasses de viande pour en faire quelque chose par rapport à la tribu, pour reprendre le terme alarméen. Donc on enlève la viande, mais peut-être pour rester incarné dans un corps, ou pour trouver le corps à l'intérieur duquel on doit s'incarner.
Et c'est un corps qui est découpé, cousu, regardé de près. Je passe à un autre moment de votre texte, Liliane Giraudon, mais il est question de d'hymen et de vagin qu'on recoue avec un fil et une aiguille pris dans un même objet, et d'ailleurs pris d'un animal, puisque le dialogue auquel je fais référence rappelle que ces fils avec lesquels on recoue les hymens et les chairs déchirées sont faits avec du porc. Vous diriez que le corps de la femme ou la viande de la femme, elle est travaillée comment dans ce texte-là?
Je suis née en 1946, c'est-à-dire que dans mon enfance, qui avait été en plus, qui est passée par des institutions religieuses, l'hymen était inséparable du mariage. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est pas si vieux finalement dans la conduite assignée aux femmes. C'est quelque chose qu'on retrouve dans une partie du monde actuellement. Et cette histoire justement de travail, en plus on comment dire, il s'agit de lèvres. D'ailleurs, j'avais jamais fait le rapprochement. C'est en parlant maintenant avec vous, je le fais. Il s'agit de lèvres et de quelque chose qui relie des lèvres. Et il faut absolument que celui qui prend possession de soi soit le premier à justement défaire des lèvres, laisser passer peut-être un langage. Mmh. Et aujourd'hui encore, je me suis rendu compte qu'il existait pas très loin de la ville où j'habite, qui est Marseille, des cliniques où on refaisait des hymens pour effectivement établir un leurre par rapport à une loi. Bon, encore heureux qu'on puisse établir des leurres par rapport à des lois, mais ce que j'ai lu m'a quand même un peu inquiété. Je suis surtout allée voir les discussions qu'il y avait à propos de ça. C'est-à-dire, je voyais des gamines qui écrivaient, par exemple, le frère de mon petit ami m'a déviergé. C'est un mot que j'avais jamais lu ailleurs. Il faut absolument, je dois me marier dans un mois, deux mois, il faut absolument que je répare mon hymen. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup troublée. Donc je m'étais dit, je vais mettre ça quelque part dans cette pièce qui s'appelle Oreste, puisque je travaillais sur l'Orestie. Et donc, si vous voulez, ça peut... Bien sûr, on est dans la viande, mais en même temps, au moment où j'écrivais ça, où je réfléchissais sur cette histoire d'hymen, je savais pas que ça allait se retrouver réuni dans le travail de la viande. Parce que je travaille, moi, par morceaux.
Donc, il y a un des morceaux qui est une lettre, on peut dire directement adressée à Pierre Reverdy, et où il est question de sa voix. Alors, on va l'écouter.
Je crois que l'intention profonde du poète, c'est d'être. Et d'être selon les exigences que lui impose sa nature, et dont personne, ni lui-même, ne pourrait se rendre compte s'il ne parvenait pas à s'exprimer. C'est là que commence ce désir d'émouvoir dont vous parlez. Il a d'abord l'impérieux besoin de s'exprimer pour se prouver à lui-même son existence, trouver son identité, la seule qui compte à ses yeux. Le désir d'émouvoir ne vient qu'en second lieu. S'il est solitaire, c'est par fatalité. Malédiction ou infirmité, pas du tout honteuse d'ailleurs, mais d'où il doit tout de même se tirer. Et c'est pour sortir de cette solitude, de toute façon assez difficile à supporter, qu'il ambitionne d'émouvoir. C'est par l'émotion que son œuvre se montrera capable de provoquer chez d'autres âmes, si vous voulez, qu'il trouvera la preuve de l'authenticité de cette valeur pesante qu'il sent et porte plus ou moins péniblement en lui-même, et qu'il pourra rejoindre les autres hommes au seul point de contact où il pouvait les rencontrer. Une œuvre, c'est le lieu de rendez-vous que le poète donne aux autres hommes, le seul où il vaille la peine d'aller le trouver.
Monsieur Reverdy, j'ai passé une partie de cette fin d'été à vous relire. À dire vrai, il y a plus d'un demi-siècle que je vous lis. Et parmi ce demi-siècle, il y a bien un quart de siècle où j'essaie d'écrire quelque chose à propos de vous, de ce que je vous dois. Si le temps présent et celui qu'on projette ne peuvent s'éclairer et se comprendre qu'en remontant vers le passé, comme si tout était joué initialement, vous avez été, monsieur Reverdy, par votre énigmatique conversion à la foi catholique, un des rares poètes vivants, parcimonieusement présents dans la bibliothèque des nonnes trinitaires d'Avignon, où je me retrouvais enfermée comme pensionnaire après la vie libre d'une petite enfance paysanne. Comme vous, mais dans une autre époque, j'ai traversé l'école comme un bagne jusqu'au dernier jour. Longtemps, j'ai partagé l'avis de Marguerite Duras qui déclarait que l'acte d'écrire ne sauve de rien, n'apprend rien, si ce n'est à écrire. Aujourd'hui, où j'ai atteint l'âge où vous êtes mort, je peux, vous citant, faire mienne la formule. Écrire m'a sauvé, a sauvé mon âme. Je ne peux pas imaginer ce qu'eût été ma vie si je n'avais pas écrit. J'ai écrit comme on s'accroche à une bouée. Liliane Giraudon, c'est un extrait de ce morceau, un des derniers morceaux du travail de la viande, qui est une lettre que vous adressez à Pierre Reverdy. On l'entendait dans une archive de 1952 et il parlait d'un rendez-vous. Il disait que, en fait, il y a dans ce que c'est que l'écriture ou la poésie, impossible rendez-vous entre les humains. Vous, vous avez eu rendez-vous avec Reverdy ?
C'est un poète qui m'a beaucoup troublée, que j'ai lu pendant des années, enfant, on peut dire, sans trop comprendre ce que je lisais. Mais ça, je me rends compte que j'ai lu beaucoup de textes sans savoir ce que je lisais. Mais ça ne veut pas dire que maintenant je sais mieux. Mais... Et c'est peut-être ça aussi la difficulté, enfin la soi-disant difficulté de la poésie, c'est qu'on veut trop peut-être expliquer. Or, à l'intérieur, comme il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de récit, c'est pas vrai, il peut y avoir du récit. Moi, je mets du récit dans la poésie. Mais il s'agit peut-être de quelque chose de plus archaïque quand on lit la poésie. C'est un peu idiot peut-être ce que je dis, mais je le ressens comme ça, de manière très naïve, peut-être infantile, justement. Ce que j'aime, moi, c'est retrouver cet état. Quand je lis un poème, et Reverdy là m'a complètement comblé, c'est ne plus savoir très bien où on est quand on le lit, ni qui on est, ni à la limite ce qu'il raconte. Et en ce moment, je relis Gertrude Stein. Et alors là, pour moi, c'est la grande patronne, comme dirait Braque. Elle est impeccable, parce que c'est vrai que tu sais pas où tu es quand tu la lis, et ça devient, à force d'une pratique, peut-être comme la musique, comme si on devenait si on jouait d'un instrument. Bon, l'instrument Stein est magique, parce que y a un don incroyable, et je suis tombée sur une phrase qui a pas l'air du tout steinienne, mais qui, moi, maintenant, me met dans ce que je suis en train d'écrire. Elle dit de manière très... autoritaire, il faut sentir ce qu'on écrit. Et le verbe sentir, dans la langue française, il est incroyable quand même. Que Stein dise qu'il a l'air tellement formaliste, il y a des malentendus sur Stein complet, à mon avis. Elle dit, il faut sentir ce qu'on écrit. Eh bien, peut-être que quand on sent ce qu'on écrit, on peut partager comme on partage un objet, une nourriture, un fruit. Tout à l'heure, vous parliez de mangue et des saisons. On a entendu la voix de Ryoko Sekiguchi qui parlait des petits pois à la saison. Eh bien, je pense que l'art et la littérature sont des aliments qui nous permettent de sentir le vent dans les cheveux, de sentir peut-être le regard de quelqu'un. Parce que il y a des mots les mots de tout le monde, les mots de, que tout le monde emploie pour vivre, qui nous sont donnés d'une certaine manière. Et ça, c'est intéressant parce que c'est ressentir. Alors, on a beaucoup parlé de l'émotion chez Reverdy, enfin, cette espèce d'idée de l'émotion. Mais je pense qu'il était beaucoup plus près, lui aussi. D'ailleurs, il avait fait de la boxe. C'est quelque chose qui m'a beaucoup troublée quand j'ai découvert que... Parce que ça, personne ne parle du fait que Reverdy avait fait de la boxe. On le voit plutôt bon, comme un intellectuel qui faisait des revues, qui après s'est converti. Alors, on a tout le problème de la conversion. Et moi, je suis arrivée, j'ai repris le problème de la convention à partir de Max Jacob. C'est pour ça que j'ai eu, à un moment donné, une sorte d'agressivité contre Reverdy. Et aussi par rapport à Coco Chanel, puisque, effectivement, maintenant, on connaît très bien l'histoire de Coco Chanel, qui, enfin, on la connaît très bien sans jamais vraiment la dire, c'est qu'elle a été quand même pro-nazie, et qu'elle a collaboré de manière pas du tout souple, pas du tout soft avec les nazis. Et que, après la guerre, les dédicaces chaleureuses, amicales de Reverdy, réfugié, lui, dans un monastère, m'ont, en y réfléchissant, beaucoup gêné. Et avec les Reverdiens, je sais que ça a été un de mes... Presque pas un conflit, mais plusieurs fois, j'ai eu l'occasion d'écrire sur Reverdy, et quand j'ai dit que je voulais parler de ça, j'ai plus eu de commandes. Sauf la dernière fois où un ami, Christian Tartin, m'a commandé une non-conférence sur Reverdy et je lui ai dit que j'allais parler de ça. Il m'a dit, mais vas-y. Donc, je l'avais faite.
C'est quoi une non-conférence?
Parce que j'ai dit que je ne suis pas capable de faire une conférence. Ah. Et je reprends un terme qui a été utilisé par Fourcade et avant par je ne sais plus quel poète américain. Parce que parler de certaines choses, ça peut être une conférence si tu es un spécialiste de la chose. Mm. Mais si tu n'es pas un spécialiste, tu ne peux pas dire que tu fais une conférence. Enfin, moi, ça me...
Alors, quoi, vous êtes quoi, vous, alors? Vous êtes une compagnonne d'un temps de la poésie de Reverdy?
Non, je suis une lectrice. J'ai lu Reverdy, j'ai rencontré Reverdy dans des livres. Et parce que je fais des livres et que je rencontre d'une dette... En fait, j'ai l'impression que je l'ai fait dans les pénétrables, je règle mes dettes face...
Ah bah la lettre, c'est ça. La lettre que vous lui adressez, en tout cas, vous commencez par lui dire ça. Ça fait longtemps que je dois te dire ce que je dois.
À la boxe, je lui en mets deux aussi.
Ouais.
Et ça, c'est un vieux truc.
Mais l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, en tout cas, dans cette lettre-là, ça va te perdre.
Oui. Non mais on peut aussi... on peut aussi être très violent dans l'amour.
On peut. Je ne sais pas si c'est ce qu'on te fait de mieux, mais en tout cas, on peut.
Non mais la violence, c'est pas... La violence est très intéressante et il faut surtout pas avoir peur de la violence. Enfin, me semble-t-il. Maintenant, il faut avoir peur de la peur, mais pas de la violence.
Ce texte-là, donc une lettre adressée à Pierre Reverdy, vous dites aussi votre ambivalence à l'égard de cette lecture et vous la croisez avec votre propre rapport à l'écriture. À ce que l'écriture a pu sauver, à ce que la lecture a pu sauver. Vous faites référence à ce moment-là aussi, à Avignon, dans votre enfance, cette espèce de passage d'une, ce que vous dites d'une enfance paysanne, à un endroit tout autre.
Ça, c'est aussi le problème du dressage. Alors, pour revenir au détail, c'est vrai que, en plus, j'ai été élevée par des grands-parents, pratiquement, dans une langue qui n'était pas le français, qui était le provençal, et je me suis retrouvée. Enfin, j'étais avec un frère jumeau, et à 8 ans, lui s'est retrouvé enfermé dans un internat chez des pères, et je ne sais plus lesquels c'était d'ailleurs, et moi chez les non-trinitaires. Et ça a été franchement un trauma. Trauma parce qu'en plus, j'avais un accent à couper au couteau de la région des Alpilles, et j'étais élevée, je mangeais de l'ail. Donc je suis devenue anorexique parce que dans la nourriture, il n'y avait pas d'ail. Et on introduisait de l'ail en fraude au réfectoire et on s'est fait choper. Et ça a été l'humiliation, mais publique. Un soir, on était 4 petites paysannes. On nous a dit, mesdemoiselles, nous vous ferons passer vos accents et le goût de l'ail.
Les mains coupées.
Peut-être pas jusque-là, mais c'était un dressage, apprentissage d'un dressage. Et à la bibliothèque, il y avait des auteurs catholiques. Mais elles étaient complètement cinglées, parce que mettre entre nos mains Racine, Rimbaud comme auteur catholique, Verlaine comme auteur catholique, Pierre Reverdy comme auteur catholique, Pierre-Jean Jouve comme auteur catholique, je veux dire, où c'était du... Elles avaient décidé, il y avait une nonne planquée qui...
Elles étaient très éclairées.
Qui faisait des attentats sans le dire, mais... Et, voilà, et je dois dire que moi, je suis tombée... dans cette bibliothèque, alors qu'il n'y avait pas de livre à la maison, et j'ai découvert, par le plus grand des hasards, cette bidoche-là. Et c'est ce qui m'a effectivement complètement fascinée, mais sans vraiment savoir ce que c'était. Parce qu'aussi, il n'y avait pas grand-chose à faire. Enfin, on nous laissait lire, ça oui, au contraire, on gavait de lecture. Mais en dehors des messes et d'un apprentissage avec une éducation pas très bonne au niveau de l'enseignement, mais il y avait cette bibliothèque et on passait beaucoup de temps à l'étude et en plus comme moi souvent j'étais collée, je sortais pas le dimanche, ben je lisais et là on ne me surveillait plus, on était apaisé en me voyant lire, ce qui était un contresens complet parce que c'est là où se fourbissait justement une révolte. Par rapport à quelque chose où on avait voulu me plier.
Je n'ai pas de projet, je ne sais pas ce que je vais écrire, je n'en sais rien. Et puis, même pendant de nombreuses années, j'ai pensé que c'était fini. Bon. Et puis tout d'un coup, il y a une charge, je ne sais pas comment ça se passe. Et tout d'un coup, c'est comme ça, mais je veux dire, instantanément, c'est aussi bien dans une heure. Je veux dire, tout d'un coup, hop, une chose se présente. Je la fais, alors là, il semblerait que les choses soient déjà prêtes depuis longtemps en moi. Alors là, c'est vraiment une décharge, et puis tout d'un coup, comme ça a commencé, tout d'un coup, le robinet est fermé et c'est fini. Il est très rare que je relise mes livres, bon, ça me déplaît, quand de temps à autre, comme ça, il m'arrive d'en feuilleter un, je me dis, mais enfin, putain, mais comment est-ce qu'il... Je ne saurais pas le refaire, quoi, tu vois. Et alors je me dis, bon, Alors j'ai vraiment ce sentiment, effectivement, d'être un organe de transmission. Maintenant, est-ce que c'est un truc complètement imaginaire? Bon, je ne sais pas, mais c'est vrai que je fonctionne sur ce qu'on appelle l'inspiration. Bon, c'est vrai, et que quand j'écris, il y a vraiment des moments où j'ai le sentiment d'être vraiment inspiré. Je veux dire, ça plane, quoi, bon... Cela dit, est-ce que c'est une vue de l'esprit comme ça qui fait que la concentration du travail vous amène à des domaines où tout se presse comme ça? C'est possible, hein. Moi, je préfère croire à l'inspiration parce qu'il y a le côté un peu magique, quoi. Voilà.
Segui l'accento. Quando l'accento è posto sulla buona sillaba,
par les temps qui courent,
il messaggio che voi invierete sarà pronto a far intendere sillabe infinite.
Marie Richeux.
Ma se l'accento non è posto sulla buona sillaba, allora il vostro messaggio somiglierà a un frastuono.
Avec Lilian Giraudon.
Che la lingua sia in francese, tedesco, spagnolo o inglese, la melodia vi trasporterà ad ogni istante in modo differente.
Tout d'un coup, dit Louis Calaferte en 1988 dans les entretiens à voix nue diffusés sur France Culture, tout d'un coup. Il s'excuse presque de croire à l'inspiration, mais il constate que quelque chose comme ça arrive après que manifestement rien ne s'est passé et qu'en fait tout est prêt. Et qu'une fois qu'il se relie au hasard, il est presque en mesure de dire « mais qui a donc pu écrire cela ?» Liliane Giraudon, dans Le travail de la viande, cette idée de la dépossession, de quelque chose qu'on ne reconnaît pas de soi et qu'on se réjouit presque de ne pas reconnaître, est assez présente.
Oui, c'est le... Je me suis souvenu de Jack Spicer, le poète américain, qui lui avait... Enfin, c'est lui qui, sur son lit de mort, disait « c'est mon vocabulaire qui m'a fait ça ». Lui, il est allé encore plus loin. Mais je me rappelle plus très bien, mais il parlait de, comme si c'était une émission de radio et qu'il était branché et qu'il recevait des messages. Alors bon, moi, il y a un truc qui me gonfle beaucoup dans l'idée de l'inspiration, c'est que je ne peux pas ne pas évoquer, en tant que femme, ces histoires de muses. Et donc, j'ai toujours pensé que l'inspiration, c'était vraiment une invention totale qui servait à quelque chose de répressif, je ne sais pas quoi, qui masquait quelque chose qu'il ne fallait pas voir. Mais tout ça, je l'ai fait de manière, enfin, presque de manière intuitive. Donc, je n'ai jamais supporté cette idée d'inspiration. Par contre, si on se dit qu'on n'est pas seul à signer ce qu'on écrit, qu'on est travaillé par une expérience du vivre qui est une expérience de l'écrire ou du parler ou de la langue, et qu'on en passe par là, mais pas tout seul, puisque personne ne vit seul. Même par des choses qui nous parasitent et qu'on ignore, et ça, c'est un côté, ça peut être vu de manière redoutable et inquiétante, d'ailleurs.
Pour celui ou celle qui écrit ?
Oui, pour chacun d'entre nous même. Pas plus ou pas moins l'artiste ou l'écrivain, pour tout le monde. On est traversé, on tente d'être le plus lucide possible par rapport à l'expérience de la traversée ce qu'on traverse, ce par quoi on est traversé, puisque c'est la même chose. Et avec ça, on écrit ou on fait de la musique ou on fait autre chose. Donc, il a raison, il le dit, mais peut-être que c'est là où les mots pèsent et sont un peu différentes. Et c'est là peut-être où un homme ne peut pas dire la même chose qu'une femme. En ce moment, je travaille sur un livre où je me suis... Le démarrage, ça a été ça, ça a été... Justement, cette histoire de mythologie, enfin pas de mythologie, de confiture autour de la poésie avec l'inspiration et cette idée de muse. Et je me suis demandé qu'est-ce que les poètes ont fait aux femmes, des femmes, dans le monde de la poésie, dans ce qu'ils nous ont présenté, puisque c'est quand même typiquement un objet masculin, comme objet d'art, historiquement. Il y a très peu de femmes, et souvent les femmes, par exemple, j'ai lu dans Susanoo que ce qu'on a d'Emily Dickinson a été complètement retravaillé par les spécialistes des manuscrits. Donc on n'a pas Emily Dickinson. Elle a été repensée, remâchée, et complètement défigurée. Ça, c'est, je ne savais pas, ça m'a beaucoup intéressée. Sur des détails, justement, qui sont quelque chose de capital, la ponctuation, les tirés, l'emplacement... On a parlé de livres alors qu'elle écrivait sur du papier de correspondance, qu'on n'est pas sûr du tout qu'elle ait voulu faire un livre, mais il y a eu bon, on lui a appliqué bah, une doxa qui n'était pas du tout certainement pas la sienne. Alors reste un secret, mais déjà si on se pose cette question, par exemple, comment se fabrique l'histoire littéraire ? Bon, à bientôt 74 ans, j'ai traversé des histoires de revues. Et souvent, je me dis maintenant, quand j'entends les témoins ou ce que l'histoire littéraire en a fait sur presque un demi-siècle, je me dis, mais je ne sais pas, je n'ai pas vu la même chose. J'ai l'impression qu'on me sert une soupe qui n'était pas du tout celle dans laquelle moi je trempais ma cuillère. Alors par moments, ça me fait rire, mais par moments, ça ne me fait pas rire du tout, parce que je me dis, bon, bah, effectivement, il faut savoir ce que ça veut dire. Enfin, Et ce n'est pas un problème de vérité, c'est un problème de... où sont les corps ?
Vous voulez dire qui on retient et qui on ne retient pas ?
Qui on efface ? Quel est le travail ? Parce que le travail de la viande, c'est aussi le travail de l'effacement. Mm. Qui a droit à être vendu au prix du gigot et qui se retrouve dans les bas morceaux ? Qui décide de ça ? Et ça, c'est quelque chose moi, qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est un problème politique aussi. C'est un problème qui rejoint le fait d'être vivant dans une société où on décide effectivement qui sera faire partie des bas morceaux et qui occupera dans la vitrine du boucher la viande la plus chère au kilo, c'est le filet. Tiens, c'est curieux d'ailleurs que ça s'appelle un filet. Enfin bon... Donc, je me pose ces questions-là. Et maintenant, où les femmes interviennent dans la poésie depuis un certain temps, je me demande qu'est-ce qu'elles vont faire au poème. Et j'essaie d'en lire, c'est-à-dire que je lis plus facilement, enfin, pas plus facilement, parce que j'essaie de ne pas le faire comme ça, mais j'essaie de voir par rapport à ce travail ce qu'elles font, non pas à la poésie, mais au poème.
Vous voyez comme les choses se déplacent, parce que votre première question, c'est les hommes, avec le poème, font des femmes ou du corps des femmes.
Oui.
Et quand vous adressez la question aux femmes, c'est qu'est-ce qu'elles font du poème ? Les hommes ont complètement disparu.
Oui, parce qu'elles, qu'est-ce qu'elles font du poème et au poème ?
Oui, mais c'est ça.
Parce
c'est
que
ça
là, on va objet. Trouver, je veux dire, plus que maintenant, on va avoir un corpus plus grand, avec une présence plus respectée. C'est-à-dire que je pense qu'une fille, maintenant, si on lui dit qu'il faut qu'elle enlève trois tirets, elle va dire non. Bon, même, enfin, si c'est posthume, elle aura plus son mot à dire. Ça sera ou le veuf ou la famille qui décidera. Parce que là, il y a aussi cet aspect-là. Mais non, quelque chose de nouveau change, je pense, quand même. De même que quelque chose de nouveau change actuellement dans la parole des femmes. On le voit quand même actuellement de manière assez violente et radicale. Bon, alors, on est à ce moment. Bon, ça n'empêche pas que tous les jours, il y a une femme assassinée. Il y a un état de fait qui fait que, là c'est difficile de dire mais non, les femmes sont respectées, mais non, vous avez la parole. Oui, il y a aussi un espace où on voit bien que quelque chose n'est quand même pas vraiment réglé par rapport à l'occupation d'une vitrine bouchère, pour reprendre la métaphore.
Loin de l'être. Vous êtes venu avec une feuille
oui,
volante. Il n'y a pas encore un livre.
Pour lire, justement, un passage où la question était justement ce que la poésie a fait aux femmes et ce que les femmes font aux poèmes.
On vous écoute.
Considérant qu'un enchaînement de phrases est un sujet, j'écrirai moi-même une ode sur nous, en vieille décrépite et selon la tradition, loin, très loin, un chien aboie, grands espaces sombres du capital, sillonnés par les petits prophètes de la langue poétique. Hors sol, sorcières aux blancs cheveux, elles avancent dans leurs vieilles robes pleines de crottes. Ce siècle sera-t-il plus meurtrier que celui qui le précéda ? Lente strangulation ou déglutition répétitive, dans nos assiettes, merde masqué pour production de merde véritable. Cutting words. Ce que je suis en train de vous dire est déjà loin de moi. Caractère parfois hasardeux de la coupe, restez calme. Toute intervention manuelle étant évitée, aucun risque de contamination. Une douce, une plaintive mélodie. Reviens, reviens, fais-le pour moi. Ou plutôt, reste où tu es.
Merci beaucoup Liliane Giraudon.
Merci.
On écoute Claude Esteban.
Je crois que c'est un peu par dépossession du vocabulaire qui est le nôtre, qui est en effet excessivement riche et qui peut rendre mentalement compte de chaque élément de la réalité. Et je trouve que la poésie, enfin le poème, disons plutôt, la poésie serait un peu prétentieux, le poème tel que j'essaie de le fomenter, c'est une manière de conquérir, j'ose presque dire de mériter les mots, par un très long compagnonnage, une très longue complicité avec eux. Alors, on n'est compagnon que de quelques mots, en définitive, les autres, on les traverse, n'est-ce pas ? Et il est vrai que j'aime infiniment Saint-Jean de Perse, mais je suis perdu dans cette espèce d'échantillonnage extraordinaire du vocabulaire et des choses et des savoirs. Et je suis sensible aux poètes qui ont un vocabulaire extrêmement réduit, s'ils l'ont en quelque sorte conquis ou mérité.
Il faut conquérir, mériter le vocabulaire, dit Claude Esteban. Il faut être dans une forme de compagnonnage avec les mots. Vous utilisez, Liliane Giraudon, ce mot de grammaire aussi. Tout à l'heure, vous citiez le mot de vocabulaire. Vous avez quoi comme genre de compagnonnage avec les mots ? Est-ce que vous diriez, comme Claude Esteban, que finalement, ils sont assez peu nombreux, ceux qui sont vos compagnons ?
Je me suis jamais posé la question. Ce que je sais, c'est que j'ai un dictionnaire étymologique tout le temps avec moi. Et que ce qui m'intéresse, c'est aussi d'avoir des surprises et de découvrir d'où ça vient. Mmh. Maintenant, le nombre, je sais pas. Là, j'ai bien connu Esteban. C'était quelqu'un de très drôle, justement, qui aimait rire. Et j'ai pas mal bu avec lui aussi. Et on avait des discussions de ce genre et on n'était pas d'accord. Je lui dis, moi, je pense qu'il n'y a pas de recette. Il faudrait arrêter aussi avec les écoles, les blancs, les lyriques. Je pense que ça, c'est des histoires de gros garçons blancs qui ont des prés carrés. Je pense que c'est à la fois beaucoup plus sérieux et beaucoup plus bordélique. Et que c'est à chacun d'y trouver. Alors, les règles de la grammaire, elles sont là, mais elles sont là aussi pour être transgressées. Le vocabulaire, il est là, mais il est là aussi pour être interrogé dans ce qu'il n'était pas à l'origine ou dans ce qu'il nous envoie du mot ailleurs. Par exemple, moi, je savais pas que la viande, on parlait de la viande de l'homme au début, la différence entre chair et viande, qui d'ailleurs n'existe pas dans d'autres langues, a été faite finalement par l'Église. Par l'étymologie, enfin au moment de l'étymologie. J'ai appris tout ça. Enfin, en plus, je suis de plus en plus allergique aux chefs de rayon en poésie, de 90 ans à 25 ans. Je trouve que les chefs de rayon, il faut les balancer, c'est tout. Et puis, c'est parce qu'on écrit très seul, avec beaucoup, beaucoup d'héritage. On écrit avec... moi, j'écris avec Racine, avec tous ces gens que j'ai lus. Mais ça suffit, je veux dire, on va pas en plus se mettre dans des clans qui ne peuvent être que des clans pourris qui font perdre du temps, effectivement, qui peuvent servir à quelque chose au niveau d'un rapport un peu militaire, au sens où l'avant-garde, c'est très bien d'y être, puis après on se recycle dans des choses pour vendre un peu plus, on s'assouplit, bon, mais la littérature c'est quand même pas ça. Ou alors si c'est ça, moi je préfère alors me mettre au tricot, ce que j'ai toujours refusé. C'est pour ça que je dessine d'ailleurs, parce que je ne sais pas tricoter.
C'est pas loin d'être la même chose. Hein. Franchement, c'est assez proche le dessin et le tricot. Vous refusez le tricot, pourquoi ?
Non, mais j'étais complètement idiote. J'ai refusé d'apprendre à coudre et de tricoter, parce qu'il fallait qu'une fille sache coudre et tricoter. Et moi, je voulais être un garçon, puisque j'avais un frère jumeau. Donc, j'ai tout fait pour ne pas apprendre. J'y suis arrivée d'ailleurs. Maintenant, je regrette parce que je trouve que c'est pas mal la couture, c'est pas mal le tricot. Ça peut être aussi très inventif. Et c'est pas mal, c'est pas mal du tout même. Là aussi, il y a un problème de hiérarchie. Je me suis fait avoir aussi en me révoltant par rapport à des objets qui auraient pu être, ou des pratiques qui auraient pu être vécues de manière subversive.
Est-ce que vous voulez bien nous dire, pour peut-être aller vers la fin de cet entretien, Liliane Giraudon, quelques mots à propos d'une concordance de date qui serait 1946, vous l'avez dit tout à l'heure, votre naissance, et d'un moment important dans la vie d'Hélène Bessette?
Oui, j'ai découvert, ça m'a beaucoup touchée d'ailleurs, qu'Hélène Bessette, l'année de ma naissance, était à Marseille, où elle a accouché avant de partir en Australie. Je crois que c'était en Australie, non? Oui, je ne me rappelle plus. Et elle monte à Notre-Dame-de-la-Garde avec son premier fils. On m'avait commandé un texte pour le colloque Hélène Bessette, parce qu'Hélène Bessette, en plus, je l'ai rencontrée, c'est un bon lapsus, j'avais un fiancé qui trouvait que j'avais la larme trop facile, que je m'énervais beaucoup, et quand je m'énerve parfois, enfin, encore un peu maintenant, je pleure. Enfin, je peux pleurer d'énervement, je peux casser, pleurer et pleurer. Pleurer, c'est pas nécessairement quelque chose de soumis chez moi. Et il avait trouvé sur les quais un livre qui s'appelait « Lily pleure ». Il m'a ramené ce livre avec une certaine... Je savais pas du tout ce que c'était. C'était un musicien qui lisait très peu, d'ailleurs. Et je lis ce livre d'Hélène Bessette. Je savais pas qui était Hélène Bessette. Et j'étais... Mais là aussi, je comprenais pas ce que je lisais. Ça veut pas dire que je comprenais pas le sens des phrases, mais je savais pas où j'étais. Et puis... peu de temps après, je connaissais Jean Tortel, sur lequel d'ailleurs j'ai fait un troisième cycle, et je lui avais apporté ce livre en lui disant « Mais regarde, je suis tombée sur un livre ». Et lui, il connaissait par je sais pas qui, il avait entendu parler d'Hélène Bessette, et c'est comme ça que je suis tombée dans Hélène Bessette, et qu'après j'ai suivi jusqu'à... On avait même fait un numéro spécial de la revue IF, et je suis devenue, sans le savoir avant, quelqu'un pour qui ce personnage d'Hélène Bessette, alors elle, qui aurait pu être totalement effacée. Bon, quelque chose de l'ordre de réparation est en cours. Donc quand j'ai vu qu'elle est... Alors, dans cette ville où j'habite, donc, le jour de mon anniversaire, j'ai demandé comme cadeau à mon fils de monter avec moi à Notre-Dame de la Garde avec une caméra pour refaire un trajet. Alors évidemment, ça ne pouvait pas être le sien. Mais on a retrouvé, et après on a retrouvé des musiques qu'elle devait écouter dans les premiers jukebox qui étaient à Castellane, parce que j'ai vu, enfin en faisant des recherches, où elle était, par où elle était passée. Et donc j'ai fait un texte en faisant des prélèvements dans des manuscrits d'Hélène Bessette. Voilà. Mais donc c'est aussi une façon, cette marche jusqu'à Notre-Dame de la Garde, à travers cette ville que j'habite, en pensant à Hélène Bessette, c'était une façon aussi d'écrire sur elle et de la lire. C'est-à-dire avec un corps, une réponse à quelque chose qui sont des livres et qui sont des corps, qui sont pas, justement, qui sont pas de la... la viande froide, d'ailleurs, est encore vivante, puisque si elle nous nourrit, elle nous sert encore à rester vivants.
Merci beaucoup Liliane Giraudon. Le travail de la viande est publié chez POL et puis on invite les auditeurs et auditrices qui traînent sur Instagram à aller voir vos dessins.
S'il va la vie d'ici, il y a la d'ici bas. Débarque des batteries, des premiers pas dansés à le bord des écoliers. Balancé dans l'air sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fond, la nuit d'avis du soufflé qui s'est tiré, dit c'est bon, c'est temps de plus. Si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, les piquets pas costauds, pas de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le nous donc, dis, dans des mondes où beau doux désir ici, efficace est d'abord, passé. Sur ton accord de bantou, touche à couche, coulé, passé, là, j'ai là, du bout des doigts, d'aussi l'eau sont chassés, tu médites, tes fois, tes faces au firmament, une note cassée. Casse-moi, n'allez plus jamais dans la scène, la musique a fini, mélodie qui vit, et file, la masse, on va dédicacer, là-bas, dans l'horizon. Sur ton accord de bantou, touche à couche, coulé, passé, là, j'ai là, du bout des doigts, d'aussi l'eau sont chassés, tu médites, tes fois, tes faces au firmament, une note cassée. Casse-moi, n'allez plus jamais dans la scène, la musique a fini, mélodie qui vit, et file, la masse, on va dédicacer, là-bas, dans l'horizon.
À la prise de son ce soir, c'était Ludovic Auger. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est Julie Ascal, Jeanne Aléos, Marianne Chassor et Romain de Bec-de-Lièvre. C'est aussi une page sur francecultures.fr, la page de Par les temps qui courent avec une petite enveloppe pour nous écrire et un podcast auquel il est possible, souhaitable, joyeux de s'abonner. Très belle soirée, 22h, bientôt journal sur France Culture.
Disparaît tout langage, tant vrai comme pec, qu'un désir ambitieux, assurément libère tout l'animal sauvage, la cauche, comme te la hate. T'as pas qu'au bala, tu t'es truc, tu t'es tac, tu t'es toc, tu t'es riga, tu t'es raga, tu t'es riga, la runana bebe, mais l'ouka petit capoudu. En quoi du coba, tu t'es truc, tu t'es tac, tu t'es toc, tu t'es riga, tu t'es raga, tu t'es riga, la runana bebe, mais l'ouka petit. T'as pas qu'au bala, tu t'es truc, tu t'es tac, tu t'es toc, tu t'es riga, tu t'es raga, tu t'es riga, la runana bebe, mais l'ouka petit capoudu. En quoi du coba, tu t'es truc, tu t'es tac, tu t'es toc, tu t'es riga, tu t'es raga, tu t'es riga, la runana bebe, mais l'ouka petit. We'll be right back.
Si ouvrirà, dispare tu l'angace, tan trai come te, qu'un desire ambitieux, assurément libère, tutte l'animal sauvage, l'âme cauche, come te, la hater, e via 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 via